3 mai, c'est la fête d'Alexandre Nevski. Ceux qui connaissent un peu l'opéra ou l'histoire de la Russie connaissent bien ce nom, Alexandre Nevski, c'est le grand prince russe. C'est un saint, n'est-ce pas, qui est mort en 1263, saint de l'Église russe. Et c'est la fête aussi de deux évêques du prénom de Didier, qu'on entend souvent en France, et un petit peu maintenant ici au Québec. Didier de Langres et Didier de Vienne. Ces deux évêques sont morts en 356 et 607. Il y a aussi un saint Guibert de Gembloux. C'est pas un prénom qui soit laid, c'est Guibert. Et le merveilleux prêtre Jean-Baptiste de Rossy, qui est mort en 1764. Puis il y a aussi la fondatrice des Sœurs de la Charité de Besançon, morte au début du 19e siècle, Jeanne Antier de Touray. Je vous ai parlé de plusieurs de ces saints l'an dernier. Mais je voudrais aujourd'hui vous parler de Jérôme Savonarole, dont le pape Benoît XIV disait qu'il était digne d'être canonisé. Pourtant, il a été brûlé par le pouvoir politique de Florence et par l'Église elle-même, au moment tragique de la fin du 15e siècle sous Alexandre VI, Jérôme Savonarole, moine dominicain, qui prêchait la pénitence, la conversion de façon peut-être exagérée, je crois. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Jérôme Savonarole est un des grands martyrs, si on peut dire, de l'Inquisition. Et le duc de Castries, dans un article extrêmement intéressant sur l'Inquisition, disait que parmi les abus d'autorité de l'Inquisition, qu'il faut bien ranger le drame de Savonarole et ce phénomène par lequel on essayait de contraindre une conscience à adopter une certaine doctrine ou à se ranger selon la véritable doctrine de l'Église. L'Église catholique, dit le duc de Castries, le pense si fortement aujourd'hui que dans le code de l'Église, le code ecclésiastique actuellement en vigueur, il est écrit au canon 1351, « Nul ne doit être forcé contre sa volonté d'adopter la foi catholique. » Et le duc de Castries termine en disant, c'est la condamnation des excès de l'Inquisition par l'Église catholique elle-même. L'Église catholique se rejette complètement ces erreurs abominables, ces gestes terribles dans l'histoire de l'Église. C'est infiniment regrettable. Jérôme Savonarole, qui est né à Ferrare et mort à Florence le 23 mai 1498, sa prédication avait entraîné avec lui Botticelli, le grand peintre, et Lorenzo di Credi, qui ont adopté ses idées sur l'art. Vous verrez tout à l'heure, nous allons en parler. Mais Savonarole a dit des choses très étranges à certains moments. Dans un ouvrage extrêmement intéressant du cardinal Charles Journet, il n'était pas cardinal dans le temps, puisque c'est paru chez Desclée de Brouwer en 1961, cet ouvrage s'appelle « Dernière méditation de Savonarole ». Traduit et présenté par Charles Journet. Il en fait un peu la biographie là-dedans, mais les méditations sont là, toutes très bien traduites, extrêmement intéressantes. Et au bas de la page 122, Charles Journet nous rapporte que Savonarole pensait même qu'Alexandre VI n'avait jamais été pape, puisqu'il avait déclaré « Il n'est pas pape, non seulement à cause de la honteuse simonie par laquelle il a obtenu la tiare, mais parce que ne croyant pas en Dieu, il outrepasse même les limites de l'infidélité et de l'impiété. » Charles Journet ajoute, il bat de soi, que sur ce point, Savonarole pouvait errer. Alors, dire du pape qui n'est pas pape, etc., dans une époque où on ne peut pas se permettre de dire des choses comme ça, et même aujourd'hui, ce serait vraiment étrange qu'on puisse dire de Jean-Paul II qu'il n'est pas pape, ça existe, hein, vous savez qu'il y a des espèces de sectes catholiques qui prétendait que Paul VI n'était pas pape, puis qu'il avait été remplacé par un sosie. Je crois que ces gens-là sont à Saint-Jovite et ont leur grand monastère, là. Et c'est étrange que des gens comme ça nous affirment des choses qui, me semble, ne tiennent pas tellement debout. Le 23 mai, l'anniversaire de sa mort, chaque année, il y a une délégation de la ville de Florence, puis du couvent dominicain de San Marco, ce beau couvent dominicain, hein, Florence, il faut visiter ça, hein. C'est décoré de façon admirable par Franz Gélicot. Eh bien, cette délégation dépose des fleurs sur la place du Palazzo Vecchio, à l'endroit même, là où, en 1498, le frère Jérôme Savonarole, qui était prêtre, et deux de ses frères dominicains, ont été pendus, et puis ensuite ils ont été brûlés. Mais cette cérémonie est bien ambiguë. C'est une glorification, d'accord, de Savonarole, si on peut le dire. Mais pourtant, aucun des assistants, on en est sûr, ne souhaiterait se retrouver au temps de Savonarole. Au temps où ce dernier s'efforçait d'établir à Florence la royauté de Dieu, un peu comme Khomeini l'a fait à Téhéran, il y a une quinzaine d'années. Ses admirateurs à Savonarole font de lui un grand réformateur de l'Église, un réformateur des plus judicieux. Ou encore, ils en font un homme qui a voulu libérer le peuple de la tyrannie des riches, tel les Médicis dans le temps. Pour ses détracteurs, Savonarole est un fanatique, un imposteur, une espèce de démagogue qui flattait le peuple. D'autres disent qu'il était tout simplement un névropathe, un pauvre maniaque. Ce qui peut surprendre, c'est que, quand on voit toutes ces affirmations-là, on pourrait dire qu'elles se justifient chacune jusqu'à un certain point. Mais il faut pas faire un absolu de toutes ces choses-là. Parce qu'il est un peu tout ça. Bon, ça demande des explications. À coup sûr, si on peut l'admettre, il y a dans le comportement de Savonarole des aspects que, dans notre façon de parler aujourd'hui, on pourrait qualifier de pathologiques. Mais, bon, prenons par exemple sa façon de considérer la sexualité. On a prétendu qu'il était rentré au couvent à la suite d'une déception amoureuse. C'est pas impossible, mais il semble pas que ce soit vrai. De toute façon, quelqu'un qui rentre par déception amoureuse, en général, va ressortir, et s'il y reste, c'est parce qu'il s'est converti à l'intérieur et qu'il a compris ce que ça veut dire, la vie religieuse. Il y a quelque chose de pathologique chez Savonarole dans la fureur avec laquelle il a poursuivi l'homosexualité et tout ce qui lui paraissait aussi licence féminine, dans les vêtements en particulier, dans les bijoux. Il donnait en exemple le voile des femmes turques. Ou encore, dans son penchant à prononcer des sermons interminables. Il y a quelque chose de pathologique là-dedans, des sermons qui n'en finissent plus. Une espèce de façon d'ergoter, là, comme on en voit qui ergote à la télévision, et puis plus d'un million de gens aiment ça, regardez ça. C'est pas croyable, ça ergote, parle de rien, les gens adorent ça. Il y a une façon aussi, Savonarole, de se justifier. Quelque chose qui est un peu déplaisant, vouloir se justifier à ce point-là. Faisait valoir ses propres arguments. Bon, on peut dire que ce comportement n'était pas plus pathologique que celui de beaucoup de gens qui croient avoir raison, mais les effets à Florence ont été épouvantables, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était un homme public, il prêchait à la cathédrale et partout, et qu'il a exercé une influence considérable. Considérable. Les franciscains, d'ailleurs, qui étaient contre lui, se plaignaient qu'ils n'avaient plus personne pour aller écouter leur propre sermon. On a discuté aussi de la démagogie de Savonarole. Cette démagogie qu'il introduisait dans ses prédications. Le frère Jérôme Savonarole a été, dit-on dans des biographies, un des plus grands prédicateurs de l'Église. Bon, qu'on soit d'accord ou non avec le contenu de ses sermons, ça c'est autre chose. Mais sa façon de prêcher finalement en a fait un des plus grands prédicateurs de l'histoire. C'était pas un orateur né. Lorsque lui, simple fils de commerçant de Ferrare, est entré à 23 ans chez les Dominicains en 1475, il est entré au couvent des Dominicains de Bologne. Eh bien, ce n'est sans doute pas le désir de devenir prédicateur qu'il poussait. Vous connaissez Bologne, certains d'entre vous, hein, cette ville, je vous le rappelle, avec les ces trottoirs couverts qui permettent de se promener. Je me suis promené, moi, à Bologne un jour de pluie. Je me suis pas fait mouiller parce que c'est un peu comme sur la rue Saint-Hubert. Il y a ces grandes tours immenses aussi, hein, que les gens ont construit à cette époque, justement, Les familles se construisaient des tours si grandes qu'ils voulaient toujours qu'elles soient plus grandes que les autres. Il en reste encore beaucoup de ces tours. En tous les cas, il est entré, notre cher Savonarole, chez les Dominicains de Bologne, parce qu'il était attiré par la vie ascétique. Il était opposé, lui, à la vie mondaine qu'il avait connue en faisant des études de médecine. Oui, des études de médecine. Il était, pour ainsi dire, médecin. 2 ans déjà avant son entrée dans l'ordre, il a composé un poème qu'il a intitulé, on le voit par le titre, « De la corruption du monde ». Alors on voit déjà la tangente de son esprit. Ses années d'études achevées au couvent de Bologne, il retourne à Ferrare, sa ville natale, mais ses débuts de prédicateur sont plutôt modestes. Lorsqu'en 1482, 16 ans avant sa mort, à cause des affrontements armés dont la ville de Ferrare et le théâtre, il est transféré à Bologne. Et puis les sermons qu'il va donner à Florence sont pas tellement appréciés parce que ses auditeurs sont choqués par son accent lombard, un accent rauque. Vous savez qu'à l'époque, les gens, tant en Italie qu'en France et un peu partout, parlaient des langues très, très diversifiées. Même il y a quelques années, je me souviens, en 1950... En France, on passait d'une région à l'autre et les dialectes changeaient chez les gens. Oui, en France même. Et encore, dans les années 70, j'ai vu des gens qui parlaient le dialecte de l'Ain devant moi, comme si c'était leur langue maternelle, vraiment. On le voit en Bretagne, en Vendée. J'ai passé des soirées avec des vieux Vendéens qui me parlaient le Vendéen. J'ai réussi à comprendre quelque chose, c'est curieux, hein, avec notre connaissance du français québécois, là, on comprend, c'est très, très, très amusant, c'est très sympathique. Les Florentins, bien, trouvent aussi qu'il utilise, Savonarole, des expressions bien vulgaires. Il a un peu le tempérament, peut-être, de Luther, hein, qui a utilisé souvent des expressions vulgaires une 50aine d'années plus tard, en Allemagne. Quand il a réformé, lui aussi, le christianisme, il l'a réformé en se séparant d'Église, tandis que Savonarole n'a jamais voulu se séparer. Il faut dire que Luther ne voulait pas se séparer au début. Hein? Je vous ai fait une bonne émission sur Luther, j'espère que vous vous en souvenez. Hein? Alors, Savonarole se fait dispenser, pour quelque temps, de la prédication. Il emploie ce temps à étudier la rhétorique, la façon de parler pour plaire aux Florentins. Quand il revient à Ferrare, d'ailleurs en 1487, il est mieux préparé à prêcher. En 1490, 8 ans avant sa mort, il est à nouveau appelé à Florence. Là, il doit devenir professeur au couvent de Saint-Marc. C'est un grand couvent, il y a 250 moines. Il a la charge de lecteur. On appelle ça comme ça, c'est professeur dominicain. Selon les constitutions dominicaines, d'ailleurs, le lecteur, c'est un théologien qui est chargé, n'est-ce pas, de commenter à ses frères dominicains, là, la Bible et puis la théologie, les textes de la théologie. Et finalement, bien l'année suivante, il est élu prieur de Saint-Marc. Donc vous voyez que c'était un homme très réputé. Il prêche pour la première fois dans la cathédrale à l'occasion du carême. Ce carême, on demande encore aujourd'hui souvent des dominicains de les prêcher. Le père Ambroise-Marie Carré en a prêché. Le père Brault, aussi Bernard Brault, en a prêché à Notre-Dame de Paris. Je ne sais pas si à Montréal on a déjà demandé à des dominicains de Montréal de prêcher à notre église Notre-Dame. Et alors donc, il prêche le carême, et puis on a l'habitude donc de demander à des dominicains là, ces sermons, dont l'ensemble forme une espèce de cycle destiné, c'est le but, ça, à éveiller chez les fidèles, qui sont très nombreux à suivre ces sermons-là, à éveiller des sentiments de pénitence et de conversion. Je me souviens des grands carêmes de Notre-Dame dans mon enfance, c'était rien pour des hommes. Mon père m'y amenait, lui, qui n'aimait pas tellement aller à l'église, mais il aimait aller à ces sermons de carême, c'était le soir, et puis Notre-Dame à Montréal était plein, les balcons étaient pleins, le jubé, tout ça, c'était incroyable, la foule. Le prédicateur venait de France, d'ailleurs, c'était des sermons très longs, magnifiques. Dans la mesure de ma petite intelligence de 13-14 ans, je réussissais à comprendre ces choses, et j'aimais beaucoup ça. et mon père lui aimait ça peut-être davantage pour pouvoir rencontrer ses amis, les saluer. Tout le monde portait des chapeaux dans ce temps-là, cravates, des costumes, hein, c'était strict. C'était vers 1940. Et alors le frère Jérôme Savonarole, lui, il est capable de faire ce genre de carême, de sermon. Puis avec les franciscains Saint-Bernardin de Sienne, dont c'était la fête lundi dernier, mais il compte parmi les meilleurs prédicateurs qui, dans ce temps-là, appellent les chrétiens à se repentir. Beaucoup d'orateurs sacrés avant lui et après lui l'ont fait, d'ailleurs. Hein? Il faisait comme eux, il s'élève contre la décadence des mœurs privées et publiques. On n'ose plus faire ça aujourd'hui. Il y a peut-être le père René Latourelle qui, par une certaine tangente, ose nous dire des vérités sur ces questions-là. Et sans doute quelques autres que je ne connais pas. Il menace, Jérôme Savonarole, il menace des châtiments divins, ceux qui ne se repentent pas. Vous voyez le genre de prédication du temps. C'est pas Dieu qui nous punit, c'est nous-mêmes qui nous punissons par nos péchés. Quand on sombre dans le péché, on sombre dans le malheur. Et plus l'humanité se dirige vers l'absence de Dieu et le péché, plus il y a des risques de l'éclatement de bombes qui réduiront à néant des parties de l'humanité. C'est pas le Christ ni son Père, Dieu Trine, qui va fracasser le monde et en détruire une partie, jamais de la vie. Dieu est bon. C'est nous qui sommes méchants. C'est nous qui nous laissons entraîner par nos désirs pervers, notre orgueil, notre manque de respect des autres. Et Savonarole dépasse le cadre traditionnel. Il devient de plus en plus concret. Il va jusqu'à prophétiser pour Florence des temps de tribulation si la population ne se convertit pas du fond du cœur. Or, savez-vous qu'en 1494, justement, la puissance des Médicis qui régnait sur Florence s'écroule, comme si Savonarole avait bien prédit. Puis la guerre amène l'occupation de la ville de Florence par qui? Bien, par les troupes françaises, oui, les Français. Nous étions Français dans ce temps-là, nous, les Québécois, qu'on appelle de souche. C'était nous, ça. Et puis, beaucoup de citoyens voient là-dedans la réalisation des prophéties du frère Jérôme, alors on lui attribue encore plus d'importance. Il est désigné, finalement, parmi les 5 députés qui doivent négocier le sort de Florence avec le roi de France, Charles VIII. Ça donne une idée, ça, vous le voyez, de l'influence que Jérôme Savonarole a acquise. Mais tout cela, y compris son rôle politique. Le seul n'y mériterait pas le reproche de démagogie s'il n'avait pas eu, du haut de la chair, une grande emprise sur le peuple. En 1494, il réussit en quelques mois à purifier Florence. La vie publique, tout au moins. De cette espèce de corruption des mœurs qu'il attaque avec force. Le carnaval, même, il l'attaque. Ce fameux carnaval, la veille du mercredi des cendres, avec ses réjouissances frivoles. Hein, pensons à ce qui se passe à Québec chaque année. Alors le carnaval est supprimé, puis il est remplacé par quoi? Par des processions pénitentielles. Imaginez s'il fallait faire ça à Québec. Oh là 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 là. On va très très loin. Les jeux d'échecs sont bannis. Je l'ignore pourquoi. Il faudrait que je fouille pour savoir pourquoi. Les femmes se résignent, elles, à porter presque toutes des tenues plutôt chastes et simples, un peu comme les musulmanes que l'on voit dans nos rues à Montréal de nos jours qui portent le chador avec un voile. Alors la pression sociale s'exerce sur les femmes qui consentent pas de bon gré à s'habiller de cette façon. Et il y a des dénonciateurs qui sont payés, qui révèlent les délits de sodomie des homosexuels. Passible de mort. Un élément de cette pression sociale est ce qu'on a appelé la police des enfants, que le frère Jérôme Savonarole mobilise du haut de la chair. Et dans le journal d'un contemporain, qui est un pharmacien, l'apothicaire Landucci, on lit le texte qui suit, c'est un petit peu long, mais je vous le lis. Les enfants sont exhortés par le frère Jérôme Savonarole à confisquer les corbeilles de craquelins du carnaval et les échiquiers des joueurs d'échecs, ainsi que beaucoup des choses peu décentes portées par les femmes, si bien que lorsque les joueurs entendent approcher les enfants du frère Savonarole, chacun s'enfuit. Il n'y a guère de femmes qui ont encore l'audace de sortir vêtues autrement qu'il ne convient aux bonnes mères. C'est la fin de la citation. Alors, cette action
atteint son point culminant avec les deux bûchers des vanités. En 1497 et 98, l'année de sa mort. Qu'est-ce que c'est que les bûchers des vanités? Eh bien, ce sont les enfants qui apportent sur la place de la seigneurie les échiquiers, les joueurs d'échecs, les phares, les femmes qui se maquillent, les objets d'art, des collectionneurs, alors des tableaux, des sculptures qui sont jugés inconvenants, et même des livres. Et tout est brûlé ou détruit, ça rappelle Téhéran, Sukhomini. On s'est toujours demandé comment un homme seul avait réussi à réformer à son gré les mœurs publiques comme ça, en un temps si court.
Mais comme dans le cas, par exemple, de l'action de Calvin à Genève, c'est bientôt l'anniversaire de sa mort, le 27 mai, Calvin. Je vous en parlerai l'an prochain. Grand réformateur protestant à Genève. Les circonstances extérieures ont favorisé les intentions de réformateurs, comme à Genève.
La vie de luxe, qui vraiment dissout la vie à Florence, tout au moins dans la classe moyenne, n'est menée que par les petits bourgeois puis les artisans que, depuis quelques années, où la seigneurie de Laurent le Magnifique leur a procuré la prospérité, ça entraîne une décadence généralisée par rapport aux mœurs. Ou aux mœurs, si vous préférez. Il y a eu déjà des ordonnances sévères, même somptuaires. Tout l'étalage de richesses a été strictement interdit. À cet égard, les actions de Savonarole, même si elles paraissent spectaculaires, ne sont finalement qu'une espèce de retour à un ancien état de choses, parce que c'est pas lui qui a inventé ça, la lutte contre ça. Ça s'est fait avant lui. D'ailleurs, les Florentins ne peuvent s'offrir tout le luxe qu'ils souhaiteraient, parce que la prospérité de la ville est déjà du passé. La classe moyenne vit, d'accord, au-dessus de ses moyens. On peut prévoir que cela ne pourra pas continuer bien longtemps, un peu comme aujourd'hui à Montréal, ou en Occident, un peu partout. Or, c'est à cette classe bourgeoise qu'appartiennent pour la plupart les partisans de Savonarole. La classe supérieure, celle du grand commerce et des banques, elle se tient dans l'expectative, puis la classe inférieure est bien trop pauvre pour être concernée par les vanités. Faire de Savonarole l'homme qui a libéré le peuple de la puissance des riches, c'est d'une exactitude assez relative, ça. C'est pas si sûr que ça. Ce qui est sûr, c'est que dans une certaine mesure, il souhaitait que la bourgeoisie ait des pouvoirs politiques. C'était un réformateur sur le plan politique aussi. Il voulait la libération du peuple, qui était écrasé par les riches. Il s'est prononcé pour une plus forte imposition des riches, qui paient des taxes. Mais ce nouveau régime fiscal n'a pas été appliqué. L'action bienfaisante du frère Jérôme à l'égard des pauvres honteux, comme il disait, n'a été qu'une goutte d'eau qui n'a pas mis fin à la misère des petites gens. Savonarole a certainement été bien peu responsable de tout cela. Il n'était pas en vérité un conducteur de peuple. Comme l'avait été à Rome au siècle précédent ce fameux Colla di Rienzo dont je vous parlerai un jour qui avait joué au dictateur. Savonarole, c'était plutôt un théoricien politico-religieux. En 1498, il a écrit du gouvernement de la ville de Florence afin d'exposer ses idées d'une théocratie, c'est-à-dire une démocratie. Démos, ça vient du peuple. Théos, c'est le Dieu. Un peuple dirigé par Dieu, comme dans la cité de Dieu d'Augustin, là. Tous les citoyens devaient être rassemblés pour l'amour fraternel sous la conduite de Dieu. C'est un beau rêve, mais comment y arriver, si ce n'est que par la conversion individuelle? Alors, par ses prédications de pénitence, il voulait aider à faire advenir ce règne de Dieu. C'est ça qu'il voulait faire. Mais le renouveau religieux auquel il s'efforçait de contribuer, là, ça s'épuisait dans une petite guerre contre le relâchement des mœurs. Alors, on l'a accusé d'avoir été sur le plan spirituel une espèce de charlatan. Et si l'on prend ce mot au sens de manipulateur religieux qui ne croit pas lui-même ce qu'il dit, ça c'est absolument faux. Le frère Jérôme Savonarole croyait à ce qu'il écrivait et à ce qu'il prêchait. Il était convaincu de parler en prophète, sur l'ordre de Dieu lui-même. Mais lui-même ne se serait pas défini absolument comme un réformateur de l'Église. Dès avant son entrée au couvent, il avait écrit dans son poème de la corruption de l'Église, « Comment es-tu aussi éloigné des temps bienheureux où les martyrs se livraient à la mort ?» Il s'adresse à l'Église. « Comment es-tu aussi éloigné des temps bienheureux où les martyrs se livraient à la mort ?» Il trouvait que l'Église s'était éloignée du temps des martyrs. C'est certainement pas un hasard s'il choisit l'ordre des frères prêcheurs auxquels appartenait le fameux inquisiteur martyr Saint-Pierre de Vérone, assassiné par des hérétiques. Il y avait en Italie, à l'intérieur de l'ordre, un groupe de réformateurs qui s'était formé au début du XIVe siècle et qui s'efforçait de revenir à l'austérité première de la génération des fondateurs. Et son centre était Saint-Marc de Florence. Et pendant plusieurs décennies, mais ce couvent et quelques autres s'étaient agrégés au mouvement de réforme, avaient constitué un espèce de domaine particulier, et ça a été supprimé par la direction de l'ordre dominicain, parce qu'on craignait une scission entre les frères prêcheurs. Puis en 1493, Jérôme Savonarole, avec l'appui des Médicis, a obtenu du pape Alexandre VI, comme prieur de Saint-Marc, il l'était, le rétablissement de cette congrégation dont il est nommé vicaire général. Et là, puissant, on va voir ce qui va lui arriver, et ce sera la déchéance. Et j'étais au moment où Savonarole a obtenu du pape Alexandre VI, comme prieur de Saint-Marc, qu'on rétablisse une congrégation dont il est nommé vicaire général. Il a donc un poste très important. Je vous signale ça, c'est pour vous montrer jusqu'où. L'importance de cet homme, c'était pas n'importe quel prédicateur. Tout d'abord, il est assez prudent pour... comment dirait-on, pour s'opposer directement au pape. Et quand il s'attaque à la vente des bénéfices, vous savez, le pape et des évêques vendaient des postes d'évêques ou autre chose, et ses auditeurs savaient quelle était la cible qu'il attaquait, parce qu'au fond, il attaquait le pape. Dans la vie ecclésiastique, comme dans la vie politique à l'époque, la corruption, c'était une méthode généralement acceptée. Comme dans tant de pays de nos jours, c'est épouvantable la corruption pour obtenir des postes. Même dans nos pays ici, c'est tragique, tragique. C'est pas rien qu'à cette époque-là. On vise toujours l'Église, 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 oui. Mais regardons tous les pouvoirs politiques. Oh, c'est effrayant. Alors la corruption, c'est une méthode qui est généralement accepté dans ce temps-là. Les Médicis savent l'utiliser mieux que personne, eux autres. Mais supporter tout ça sans dire un mot, ou la condamner du haut de la chair, c'est deux choses bien différentes, et lui, il veut la condamner du haut de la chair. Alors, il y a une réaction de Rome, des cardinaux, des évêques, hein. Ça se fait pas attendre. Et le pape, finalement, qui lui a adressé une première lettre, elle est adressée au frère Jérôme. Elle est assez bienveillante. Alexandre VI, qui n'est pas aussi mauvais pape que sa réputation l'a faite, je ne veux pas excuser ce pape abominable, mais c'est quand même un homme qui avait des grandes qualités. Alexandre VI l'invite à venir s'expliquer à Rome du bruit, dit-il, selon lequel il prétend prêcher en tant que prophète et sous une inspiration divine. Alors, de sa prédication contre la simonie, c'est-à-dire le trafic d'argent pour des postes, ou le nommer le neveu de son ami, etc. Vous savez comme ça se fait même dans des compagnies de nos jours. Alors, donc, sa prédication contre la simonie, puis les mœurs relâchées du clergé, bien, il n'est pas question de ça dans la lettre du pape. Le pape ne parle pas de ça. Il était, paraît-il, un petit peu d'accord. Lui, qui avait de la difficulté à se réformer lui-même, aurait voulu la réforme du clergé. C'est assez curieux, ce pape. Et dans sa réponse, le frère Jérôme Savonarole, lui, se dit souffrant. C'était vrai, d'ailleurs. Il était incapable d'aller jusqu'à Rome, et même, pour le moment, il était incapable de prêcher. De fait, dans les semaines suivantes, il ne monte pas en chair. Bon, les choses se calment. Mais dès qu'il reprend ses prédications, il reçoit, en octobre 1495, donc moins de 3 ans avant sa mort, une nouvelle lettre d'Alexandre VI qui lui enjoint de se rendre sans délai à Rome, puis lui interdit de prêcher. C'est les influences, évidemment, de la famille Médicis, c'est les influences politiques là, qui jouent auprès du pape. Hein, vous voyez le genre. Il y a aussi probablement des clercs
mais qui vivent dans une espèce de richesse et qui n'aiment pas ces prédications-là, puis probablement quelques laïcs aussi, qui trouvent qu'il exagère. Mais c'est surtout des influences politiques qui s'exercent sur le pape. Et en même temps, le pape charge le provincial de la province dominicaine, de Lombardie, d'enquêter sur ce qui se passe au couvent Saint-Marc de Florence. Alors le pape joue de façon assez adroite, parce que lorsque les couvents de Toscane se sont séparés de la province de Lombardie, celle-ci ne l'a accepté que de mauvais gré. Alors il y a quelque chose là, il flatte ces moines-là, le pape, il est pas bête. Alors Savonarole proteste aussitôt auprès du pape, il lui propose que soit envoyé à Saint-Marc un visiteur pontifical qui s'informera de la réalité, sans préjuger. Mais le pape Alexandre ne songe pas à accepter cette proposition. Il ne s'agit pas pour lui d'une enquête sur l'état d'un couvent, mais d'une lutte de pouvoir. Il lui faut tout d'abord isoler le frère Jérôme et son ordre. Parce que le pape a besoin de Florence, au fond, de la ville de Florence. Alors Savonarole ne se rend pas à Rome. Il se soumet un temps à l'interdiction de prêcher, qui a été renouvelée. Mais il se trouve dans un dilemme. Il prêche pas, et il n'exerce plus d'influence sur le peuple, mais il a besoin de cette influence parce que ses adversaires, visiblement, deviennent plus forts. Et le 4 mai 1497, un peu plus d'un an avant sa mort, il prêche à nouveau, et 8 jours plus tard, il est excommunié par le pape. Là encore, Alexandre VI se montre plutôt habile. Il n'expédie d'abord qu'au couvent dominicain, divers couvents, le bref d'excommunication. Ce n'est qu'un mois plus tard que ce bref est lu en public dans les 4 églises les plus importantes et devant la cathédrale de Florence, évidemment. Alors le clergé de Florence se montre dans l'ensemble, bien que pour des raisons différentes, là, se montre réservé ou sinon même hostile envers Savonarole. Là, ça change. Une partie des gens d'église se rebiffent, d'ailleurs, contre les reproches justifiés que le prédicateur adresse à toutes les tendances vicieuses des nombreux prêtres. C'est comme ça qu'il s'exprime, les tendances vicieuses de nombreux prêtres. Il attaquait les prêtres du haut de la chair. Dans les couvents à visée pastorale, jouait aussi, en particulier chez les franciscains, une espèce de jalousie entre concurrents, parce que les franciscains exerçaient une pastorale, c'était pas des moines cloîtrés. Parce que depuis l'apparition du frère Jérôme, je voulais en parler un peu tout à l'heure, le peuple se pressait à ses sermons à lui, puis il n'y avait plus personne pour entendre les autres prédicateurs. Question d'argent aussi, probablement. Mais aussi la déception de ces moines qui prêchent assez bien, mais qui n'ont plus personne. C'est Savonarole qui est tonitruant, qui est audacieux, qui prêche longtemps et qui dit des choses tellement terribles que tout le monde court pour l'entendre. Alors Savonarole est poussé vers l'isolement. C'est très visible d'ailleurs en avril 1498, un mois avant qu'il soit brûlé, lorsqu'il propose que soit organisée une épreuve par le feu. Je vous raconte ça parce que c'est tellement extraordinaire, ça vaut la peine. Le projet, on fera passer à travers un brasier un franciscain du couvent de Sainte-Croix et un dominicain de Saint-Marc pour prouver la justesse ou la fausseté d'un texte établi en commun et contenant les thèses suivantes, entre autres, l'Église a besoin d'être rénovée, l'excommunication lancée contre le frère Jérôme n'est pas valide. Et je continue la lecture de ce texte. Si le franciscain est brûlé, et non le dominicain, la validité de ces thèses sera établie. Si tous deux sont brûlés, les thèses seront détruites ou réfutées. Une telle superstition, moi ça me fait sourire. C'est incroyable, comment on peut être bête. En tout cas, toutes les époques ont des critères étranges. Et je me demande des fois si les générations futures ne souriront pas devant nos critères à nous autres aujourd'hui, où on voit les aberrations les plus abominables, les crimes les plus insensés se dérouler dans tous nos hôpitaux quand on tue nos enfants. Quand on se réveillera, on trouvera qu'on était vraiment invraisemblable. En tout cas, l'épreuve n'a finalement pas lieu. les contractants, n'ayant pu se mettre d'accord sur la façon de pratiquer cette espèce de jugement par le feu. Là. Mais le but des ennemis de Savonarole est atteint. Hein. Le petit peuple commence à douter de la mission providentielle de ce bon prédicateur. Puis là, dans les sphères politiques autour des Médicis, son influence décline. Depuis un certain temps. Aussitôt après son excommunication, d'ailleurs, la ville a adressé au pape Alexandre VI une pétition pour faire lever cette mesure. Puis, le petit peuple a refusé d'obéir au pape,
à son injonction selon laquelle il doit ou être envoyé à Rome ou être enfermé dans une prison de la ville. Ce qui empêcherait évidemment ce pauvre Savonarole de prêcher, mais le peuple aime l'entendre. Alors les deux initiatives, du pouvoir et du peuple, sont contraires, puis ont rencontré une forte opposition parmi les Florentins. Il y a une troisième faction. Ceux-ci n'osent pas se manifester directement contre le prédicateur populaire, mais ils insistent sur les dangers qui menaceraient la ville au cas où Alexandre VI lancerait sur Florence l'interdit redouté. Alors il y a trois factions. Certains rapports des envoyés de Florence à la cour du pape à Rome, au Vatican, emportent enfin la décision. La seigneurie, c'est-à-dire les organes du gouvernement municipal, on appelle ça comme ça, la seigneurie à Florence, hein? Bon, mais la seigneurie de Florence est informée que le pape projette de faire arrêter les commerçants florentins qui résident à Rome. Il va sévir comme ça. Puis à la suite d'une telle mesure, la ville de Florence, qui est déjà gravement endettée, elle a été envahie par les Français, oublions-le pas, bien, avait périclité son commerce, comme on a à Montréal, puis un peu partout dans l'Amérique du Nord et un peu partout dans le monde. C'est pas drôle, c'est le commerce qui périclite. Alors, c'est comme l'a écrit une biographe de Savonarole, le triomphe du sens du commerce. Puis la seigneurie, puis le pouvoir, la seigneurie elle-même, interdit à Savonarole toute prédication. Et là, le frère Jérôme Savonarole doit pressentir ce que signifie cette volte-face. Alors, dans sa dernière lettre au pape, qu'est-ce qu'il lui dit? Il comprend et il lui dit « J'attends la mort avec le plus grand désir. » Il voit que sa vie est gravement en danger. Alors, une dernière tentative qu'il fait pour prêcher entraîne une émeute populaire devant le couvent de Saint-Marc, puis s'entraîne sa mise en prison. En avril, donc un mois avant sa mort, commencent les interrogatoires pour lui et pour deux de ses frères qui sont emprisonnés avec lui. Ils sont soumis à la torture. Il reconnaît qu'il n'est pas prophète, mais il finit par rétracter cet aveu en mai, devant la commission pontificale, commission envoyée par le pape. Puis il persiste à se dire messager de Dieu, envoyé par Dieu. Il est torturé une seconde fois le 19 mai 1498. Il avoue tout, ce qu'on veut, évident, sous la torture. Quelle imbécilité que de torturer des gens pour leur faire dire quelque chose. Ça me révolte. Et finalement, mais il est condamné à mort, et on dit que il est condamné à mort pour enseignement faux et corrupteur. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, enseignement faux et corrupteur? Ça veut pas dire grand-chose, hein? Imaginez n'importe quoi. Le mercredi 23 mai 1498, veille de l'Ascension, il fut conduit avec les frères Sylvestre et Dominique, qui devaient mourir avec lui, à la chapelle du palais de la Seigneurie, pour assister une dernière fois à la Sainte-Messe. Écoutez bien ça, il assiste à la Sainte-Messe. Au moment de la communion, il sollicite la faveur de recevoir comme prêtre la Sainte-Hostie dans ses propres mains. On la lui accorde. C'est tout de même étrange. On le condamne, puis on lui permet comme prêtre de toucher, car toucher à la Sainte-Hostie à cette époque. Seuls les prêtres pouvaient toucher à l'hostie. Aujourd'hui, on est habitué, depuis le concile, on communie dans la main. Mais je me souviens, dans mon enfance, il n'était absolument pas question de toucher même à un vase sacré, même pas à un linge sacré. Le sens du sacré était tellement fort chez nous, les enfants de cœur, qu'on approchait de l'autel presque avec une immense révérence.
On entrait dans le cœur avec un infini respect des vases sacrés et des saintes hosties. Aujourd'hui, c'est dommage. Hein? On n'a plus le sens de ça. Alors lui, il les tient dans ses mains. Puis la tenant devant ses yeux, il dit ceci. Je vous le lis, c'est tellement beau. Seigneur, je sais que vous êtes ce vrai Dieu qui a créé le monde et la nature humaine. Je sais que vous êtes cette Trinité parfaite, indivisible et inséparable, distincte en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je sais que vous êtes ce Verbe éternel, qui est descendu du ciel sur la terre dans le sein de la Vierge Marie, que vous êtes monté sur le bois de la croix, afin de répandre votre précieux sang pour nous, misérables pécheurs. Je vous supplie, ô mon Consolateur, qu'un sang si précieux n'ait pas été répandu pour moi en vain, qu'il soit la rémission de tous mes péchés, dont je vous demande pardon, depuis le jour où j'ai reçu l'eau du Saint-Baptême jusqu'à maintenant, et pour lesquels, Seigneur, je vous dis ma culpe. Je vous demande aussi pardon de toutes mes offenses contre cette cité, contre ce peuple de Florence, en matière spirituelle ou temporelle, et encore de toutes les erreurs que j'ai pu commettre sans le savoir, et humblement, à toutes les personnes qui sont ici présentes, je demande pardon. Qu'elles veuillent bien prier Dieu pour moi, afin qu'il me donne la force au dernier moment, et que l'ennemi ne l'emporte pas sur moi. Que votre amour vous fasse confiance, que votre amour vous fasse violence, vous inclinant à triompher de nos péchés par le pardon, et à combler notre désir en nous rassasiant de la vision de votre face. Alors un peu après, quand on lui a arraché brutalement sa robe dominicaine, c'est très tellement contradictoire, tout ça, on lui donne la communion, il la tient dans ses mains, il se communie lui-même, puis là on lui arrache sa robe dominicaine, beau vêtement blanc. Alors il demande de la reprendre dans ses mains pour la tenir une dernière fois, sa robe dominicaine, son costume. Et il dit, « Ô saint habit, combien je t'ai désiré. Tu m'as été donné par une grâce de Dieu, et je t'ai conservé jusqu'à maintenant immaculé. Et à cette heure même, je ne voudrais pas te quitter, mais tu m'es ôté. » C'est le mercredi 23 mai, à 14h30, qu'il fut supplicié, lui dit le cardinal Journet. Il monta sur l'échafaud en récitant le symbole des apôtres. Il jeta un dernier regard, empreint d'une tristesse indicible, sur la foule et sur le palais de la Seigneurie. Le bourreau lui passa le nœud coulant et le précipita dans le vide. Un peu après, son corps s'écroula dans les flammes, du bûcher. Son cœur et son foie pendaient au dehors. Ils devinrent une cible pour la racaille qui commençait, à Florence, à relever la tête. La racaille, c'était tous les, ce qu'on dit en langage religieux, les impudiques, les matérialistes, les anarchistes, les petits révolutionnaires, les gens qui ne veulent pas se convertir, qui ne veulent rien entendre à l'Évangile. C'est ainsi que est mort cet homme qui est jugé par certains comme un saint, par d'autres on ne sait trop comment. Difficile. C'est difficile. On serait tenté de penser que, même accusé injustement, Savonarole aurait dû cesser sa prédication et tout abandonner à Jésus, qui semblait vouloir, par son vicaire sur la terre, le pape, le réduire à l'impuissance. Cela est vrai
dans le cours normal des choses. Mais, est-ce qu'on peut dire que le cours des choses était normal à ce moment-là, sous Alexandre VI? C'est le point le plus torturant, le plus intime du drame de Savonarole. Il faut imaginer ce que signifiait le scandale de la cour d'Alexandre VI pour un cœur brûlant comme celui de Savonarole, Dominique, qui croyait aussi merveilleusement à la transcendance de la foi catholique, à la sainteté de l'Église romaine, épouse du Christ et amoureuse de ses pauvretés et puretés et magnanimités, à la dignité unique et incorruptible du charisme de la papauté, d'autre part. Extrêmement complexe et difficile. Les ennemis, d'ailleurs, de Savonarole brûlent les cartes, ils retardent ou interceptent les lettres. Ils ont falsifié même les pièces de son procès. L'incohérence finit par devenir invraisemblable. On lui permet de se confesser, on lui défait ses menottes afin qu'il puisse être en prêt de tenir une dernière fois Jésus dans ses mains et se communier lui-même. Et, au cours de la même séance, comme je vous l'ai dit, on le dégrade, on lui arrache sa robe de dominicain. Il demande de la tenir une dernière fois dans ses mains quand il dit, comme je vous l'ai lu au Saint-Habit, « Combien je t'ai désiré ?» Alors qu'on vient de lui donner les sacrements de pénitence et d'eucharistie, on le déclare hérétique et schismatique, c'est insensé. On prétend l'exclure juridictionnellement même de l'Église triomphante. Hein? L'Église triomphante, c'est l'Église au ciel. C'est tellement stupide. Il le dit d'ailleurs à celui qui l'accuse, il lui dit, vous pouvez me retirer de l'Église militante sur la terre, mais vous ne pouvez me retirer de l'Église triomphante, vous n'en avez pas le pouvoir. Il monte sur l'échafaud en récitant le credo. Il redit sa foi en la Sainte Église catholique, sans un mot d'amertume, sans un geste qui ne soit magnanime. Il est fidèle jusqu'au bout à la devise de sa serre petite bannière qu'on peut voir aujourd'hui encore à Florence, où il ne séparait pas l'inséparable. C'est écrit sur cette bannière, « Christus et Ecclesia Romana », le Christ et l'Église romaine. Si ce n'est pas ici, comme dit Charles Journet, la sainteté héroïque, où est la sainteté héroïque? Alors il semble que le temps soit venu d'écrire maintenant sur Savonarole, qui a été aimé de Saint-Philippe Néri et de Sainte-Catherine de Ricci. Du point de vue théologique, il faudrait l'écrire, le livre définitif. Il y en a un qui est paru de Enzo Gualazzi, il y a une dizaine d'années, Savonarole, chez Payot. C'est très intéressant. C'est 300 pages, magnifiquement fait. Je vous en lis un bref passage pour vous donner une idée. Mais devant la mort, Jérôme Savonarole ne ressent aucune peur. La mort, c'est autre chose. Pour le frère Dominico, c'est même une fête. On ne pourrait pas en dire autant du frère Silvestro Maruffi, mais il finira par se résigner. Tous trois vivent les 12 dernières heures de leur vie. Et le livre se termine de façon très simple, très très simple. Le premier à gravir l'échelle du gibet est le frère Silvestro. Il s'en tient à ce qui a été décidé la veille. Il va même jusqu'à prononcer les paroles du Christ, « Manus tuas commendo spiritum tuum ». Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Le frère Domenico est le deuxième à monter à la potence, et l'on note son expression heureuse et presque enjouée. Le frère Jérôme, d'une parfaite sérénité, récite le credo en avançant vers la corde, le dernier. Et la dernière phrase du livre est toute courte, mais de cette histoire, on a surtout retenu le beau feu allumé aussitôt après. Il y a un petit ton sarcastique chez Enzo Gualazzi qui ne me déplaît pas. Beaucoup de livres ont été écrits. Je ne saurais vous recommander que celui que je préfère, c'est bien « Dernière méditation de Savonarole ».
traduite et présentée par Charles Journet chez Des Clés de Brouwer, mais c'est très ancien, 1961. Et ça a été dédié par Charles Journet, qui est devenu cardinal, à la grande mémoire de Fra Girolamo, cher à Saint-Philippe Neri et à Sainte-Catherine de Ricci. Le traité de l'Église est aujourd'hui suffisamment explicite pour dispenser les lumières nécessaires. Et on rappelle que l'Église est certes pas sans pécheur, mais l'Église est sans péché. C'est tout à fait différent. Elle est l'épouse sans tache ni ride ni rien de pareil, mais sainte et immaculée. Et devant de tels drames, rappelons-nous que tout ce qu'il y a de sainteté en ses membres est à elle et à Jésus. La charité, la foi, les caractères sacramentels, les pouvoirs juridictionnels, le charisme de la papauté, tout ce qu'il y a de péché, d'autre part, est du diable. La frontière entre les deux cités, celle de Dieu et celle du diable, passe où? À travers notre cœur à nous de catholiques. N'oublions pas que l'Église est digne de notre respect et de notre amour. Je termine cette émission en vous rappelant ces paroles de Savonarole où il est allé trop loin. En parlant du pape, il dit « Il n'est pas pape et d'aucune façon ne peut l'être. Voici ce que je déclare en premier lieu. Cet homme n'est pas chrétien. Il ne croit même plus qu'il y a un Dieu. Il passe les dernières limites de l'infidélité et de l'impiété. » Parler en public comme ça, c'est aller très très loin. Pauvre Savonarole, qui avait de très beaux côtés, et on le voit bien dans ses méditations, des choses absolument admirables.